BFM Bourse, on refait la séance.
Ah, il sent la pression sur ses épaules là. Alexis, c'est sur vous qu'on compte.
Absolument. Bonsoir Guillaume, bonsoir à
tous. Bonsoir Alexis. Pour répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs sur leur portefeuille boursier, c'est Alexis Albert qui ce soir va vous répondre, gérant analyste pour DNCA. D'abord une clôture dans le vert, ça fait toujours plaisir. Plus 0,8%, 8105 points à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, on a eu un indicateur PMI, zone euro, PMI flash, composite, qui réaccélère, qui confirme peut-être le regain de vitalité de l'économie européenne et un regain de croissance sans doute à venir. On verra dans les prochaines semaines. Vous le sentez bien ce marché alors qu'on est encore au tout début des publications? Vous le sentez fort ou vous le sentez plutôt faible?
Moi, j'ai le sentiment que c'est un marché qui effectivement consolide un petit peu. Je pense quand même que sur la zone européenne, il y avait des raisons de consolider, que ce soit des raisons géopolitiques, des raisons économiques. Il a fallu aussi digérer la hausse des taux. Il a fallu digérer la possible absence d'une baisse des taux aux États-Unis. C'est quand même quelque chose, je vous rappelle qu'on a commencé l'année avec possiblement 6 à 7 baisses de taux. Aujourd'hui, on est sur possiblement 2, voire peut-être aucune. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut digérer. Les marchés actions sont quand même une dérivée des marchés obligataires, et notamment des taux, et notamment du 10 ans américain. Donc il a fallu digérer tous ces éléments. Le ralentissement européen, les conflits géopolitiques, le niveau des taux très élevé. Je ne sais pas si on a complètement fini de le digérer, mais en tout cas, on en a fait une petite partie.
Il y a une valeur qui est suspendue de cotation aujourd'hui, Voyageurs du Monde. Suspendu de cotation, son patron Jean-François Rial sera l'invité de BFM Business, figurez-vous. On aura sans doute l'explication à cette suspension de cotation. Rendez-vous à ne pas rater en direct, hein, Jean-François Rial. Il répondra aux questions d'Edwige Chevrillon. Ce sera dans à peine une petite demi-heure à partir de 18h10 dans Good Evening. On est le soir quand même. Good Evening Business. Ne ratez pas donc le patron de Voyageurs du Monde dont le titre est suspendu de cotation. Et du coup, sur les forums, du côté des actionnaires, on s'interroge énormément quelle sera l'annonce de Jean-François Rial. Le patron de VDM sera donc notre invité tout à l'heure. Les autres valeurs qui se distinguent. Renault. Alors Renault a publié, pour le coup, l'activité financement de Renault positive, mais l'activité véhicule un peu moins. Le titre Renault, qui naviguait dans le rouge une bonne partie de la séance, a fini par réussir à limiter les dégâts ce soir. Comment est-ce que vous voyez cette publication de Renault? Comment est-ce que vous la percevez après une incroyable performance en début d'année? Le titre gagne quasiment 40% même sur un an. Enfin, c'est quand même très spectaculaire. Comment est-ce que vous voyez la suite pour Renault après cette publication et avec les perspectives qui ont été annoncées tout à l'heure?
Je crois que justement cette respiration, enfin en tout cas cette performance boursière de la journée ou cette absence de performance boursière de la journée, il faut le mettre au regard de la performance boursière du titre depuis le début de l'année. Donc moi je ne tirerai pas véritablement de conclusion sur la journée boursière de Renault aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un titre, une société en tout cas qui continue de performer relativement bien en termes de livraison de véhicules, en termes de prise de commandes. On a quand même dans un environnement économique dur en Europe, enfin en tout cas compliqué, on a 2,5 mois de commande. Il me semble que c'est plus que correct et il me semble que beaucoup de sociétés, y compris dans l'automobile, aimeraient pouvoir en dire autant. Parallèlement à ça, on a l'activité financement, vous en avez parlé, qui se porte bien. Ouais. Donc on est une petite pause boursière, peut-être, oui, absolument.
Et encore. Alors le titre était dans le rouge, il a terminé à plus 0,4 ce soir. Il a réussi, à la force du cœur et de l'âme, à terminer dans le vert à plus 0,4 malgré une déception sur l'activité automobile.
Voilà, je pense que c'est une déception relative. Ah oui. On a quand même une dynamique produit qui est bonne. On a le Scénic électrique qui est en lancement. On a la R5 qui va arriver. Aujourd'hui, on a un groupe qui fait... Moi, ça me rappelle beaucoup l'histoire de Stellantis il y a quelques années. On retrouve des belles marges automobiles, bâties sur quelques modèles phares. Je pense quand même que c'est un groupe qui, aujourd'hui, est dans un schéma fondamental, opérationnel, relativement solide. Est-ce que il va falloir quelques semaines pour digérer la performance boursière? C'est possible, mais en tout cas, on a plus de 7,5 de marge opérationnelle, une valorisation relativement faible. Je suis pas particulièrement inquiet.
Renault, 47,66 € qui termine donc finalement en légère hausse après une séance un peu chaotique, plus 0,4%. Donc une autre valeur qu'il fallait pas rater aujourd'hui, parce qu'il y a un relèvement d'opinion dessus sur ST Microelectronics de la part de Berenberg. Ce titre STM a donc aujourd'hui profité de ce relèvement d'opinion. STM termine en progression assez nette, effectivement, après une phase compliquée dans l'univers des semi-conducteurs. Cette thématique, ce secteur des semi-conducteurs, depuis quelques jours, souffre énormément. Et Berenberg, il voit pour le coup une occasion d'acheter un titre comme ST Microelectronics. Est-ce que vous vous dites que oui, on est désormais sur des points d'entrée dans l'univers des semi-conducteurs, Alexis?
Alors déjà, dans les semi-conducteurs, j'ai envie de distinguer très rapidement deux secteurs. Ce qu'on appelle l'équipement semi-conducteur, le plus connu étant ASML, évidemment. Et puis les semi-conducteurs avec des sociétés comme ST Microelectronics ou Infineon. ASML, un parcours boursier exceptionnel. Une petite correction la semaine dernière suite à la publication d'un carnet de commandes un petit peu décevant. Néanmoins, un parcours boursier exceptionnel. Et puis en face, on a ST Microelectronics. À l'inverse, un parcours boursier un peu plus compliqué, notamment en raison, on va dire, d'une difficulté de la reprise des commandes de ce qu'on appelle les semi-conducteurs destinés notamment à l'industrie et aux petits microcontrôleurs en Chine. Est-ce que c'est la fin de ce déstockage? Est-ce qu'on va retrouver un redémarrage de cette partie de l'activité? Pour être tout à fait honnête, moi je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont intéressants sur ST Microelectronics, mais est-ce que le message sera suffisamment positif dans deux jours pour reprendre complètement, effacer, on va dire, la perte de début d'année? Il est un petit peu tôt pour l'affirmer.
Ce titre STM a gagné 1,4% en clôture. Aude nous appelle. Aude Kersulek, la Tour Euronext en direct, la salle de contrôle du CAC. 17h47. Aude, on l'attendait comme le lait sur le feu. Ça vient de tomber, la publication de Kering.
Kering, oui, le chiffre d'affaires du premier trimestre, 4,5 milliards. Il est à recul de 10% en données comparables. Donc 10%, c'est ce qui avait été annoncé dans l'avertissement sur chiffre d'affaires il y a quelques semaines. La performance de Kering s'est fortement détériorée, hein, commence François Henri Pinault, qui cite évidemment les conditions de marché en Chine, mais aussi le repositionnement stratégique de certaines de nos maisons. Et là, c'est intéressant de regarder la ventilation par créateur au sein de Kering. Gucci est en recul de 18% en comparable. Donc là, c'est un petit peu mieux que ce qui avait été annoncé dans le communiqué de presse il y a quelques semaines. On était à moins 20% pour le recul de Gucci. On est à 2,79 milliards pour ce premier trimestre pour le chiffre d'affaires de Gucci. Yves Saint Laurent est aussi en recul. On est quand même aussi à moins 6% en comparable. Seul Bottega Veneta monte de 2%. Et puis la division aussi qu'on regarde beaucoup dernièrement chez Kering, la division lunettes Kering Eyewear, qui l'a en progression de plus 9%. Donc c'est quand même assez sévère pour ce premier trimestre. Le recul du chiffre d'affaires du groupe Kering, il s'établit donc à moins 10%.
Waouh. Et ce sera la valeur à surveiller demain matin. On verra comment le marché réagit à cette publication qui vient à l'instant de tomber. Merci beaucoup, Aude, de nous avoir alerté effectivement en direct. À votre avis, Alexis, comment le marché pourrait réagir? Kering, depuis le début de l'année, perd déjà 12%.
Absolument. Je pense que la conférence téléphonique qui va être tenue par le groupe va être très très importante ce soir. On est finalement en ligne avec la préannonce qui avait été faite le 19 mars. À peu de choses près, on est en ligne à l'échelle du groupe. On est un tout petit peu mieux sur Gucci, mais j'ai envie de dire, c'est quand même un petit peu l'épaisseur du trait, moins 18, moins 20. C'est des reculs qui sont très très prononcés. Très prononcés quand on compare à ce qu'a publié LVMH la semaine dernière. On va voir, ensuite les autres groupes vont arriver avec Hermès, avec Richemont. C'est vrai que c'est des reculs qui sont très prononcés. On a un repositionnement. La question qu'on se pose tous, et c'est pour ça que je dis que la conférence téléphonique va être clé ce soir, c'est de savoir, est-ce que ça y est, on a passé le point bas? Est-ce que c'est l'inflexion ou est-ce qu'il y a encore quelques trimestres? Aujourd'hui, se prononcer en l'absence de data supplémentaire, je trouve que c'est un petit peu hasardeux. J'ai tendance à penser que on est encore dans une situation un petit peu de repositionnement, comme l'indiquait il y a un instant.
La meilleure nouvelle pour Gucci, ce serait pour Kering, ce serait justement de moins dépendre de Gucci, sauf que si Kering parvient un jour à moins dépendre de Gucci, ça signifiera que Gucci peine à performer. Et ce ne sera pas une bonne nouvelle pour le titre Kering, du coup. Enfin, ils sont un peu prisonniers de
cette situation. Oui et non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours un petit peu mettre les spots sur Gucci. On oublie que Yves Saint Laurent a aussi été un moteur de croissance assez important chez Kering. Yves Saint Laurent est quand même une réussite exceptionnelle. Donc, je pense que de temps en temps, on a un peu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est vrai que la dépendance de Gucci reste forte. Et malheureusement, ce qu'on souhaitait tous, c'est-à-dire une décorrélation forte entre Yves Saint Laurent et Gucci, en tout cas en 2023 et en ce début 2024, elle ne s'est pas suffisamment fait sentir.
Kering anticipe une baisse de son résultat opérationnel courant de 40 à 45% au premier semestre. Réaction demain du titre, on gardera ça bien sûr en direct. Vous venez de l'entendre, on vient de recevoir une autre question. Tiens, un de nos auditeurs et téléspectateurs sur une autre valeur. Il s'appelle Niap sur le réseau X, le réseau et le fil X BFM Bourse sur Interparfum. C'est cette valeur qui intéresse cet auditeur. Il nous dit: Interparfum, les derniers résultats ont été accueillis froidement, la valeur n'a que peu bougé depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut, à vos yeux, jouer les prochains résultats, la prochaine publication à venir de ce groupe Interparfum? Alexis.
En tout cas, Inter Parfums, c'est une société extrêmement bien gérée sur un secteur qui a aujourd'hui la cote. Je vous rappelle justement, on parlait de Kering, que Kering a fait des acquisitions dans le secteur de la parfumerie et de la fragrance. Un autre élément intéressant aussi, qui va être intéressant pour Inter Parfums, c'est la possible introduction à venir du groupe espagnol qui s'écrit Puig et qui se prononce oui. Puig, qui va aussi permettre d'avoir un petit peu plus d'acteurs cotés dans ce secteur. Et aujourd'hui, le leader, en tout cas celui qui a le track record le plus long, c'est Inter Parfums. Une forte croissance, une forte rentabilité, un groupe bien géré, ça c'est quand même tous les éléments positifs. Et ces éléments-là, ils sont là pour durer. Il y a toujours les questions qui se posent, à savoir, est-ce que le groupe va réussir à tenir, à maintenir ses licences ? Voilà, ça c'est la vraie question qu'on peut se poser sur Inter Parfums. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, on a toujours une croissance forte, une bonne rentabilité et un groupe extrêmement bien géré.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Alexis. Albert pour Merci. DNCA.